À vous qui découvrez cet enregistrement dès sa sortie ou bien plus tard, ceci n'est pas seulement un podcast, c'est une enquête. Une enquête sur l'avenir. Il est indéfini, on nous dit qu'il est incertain, et de plus en plus il nous paraît plein de menaces. Mais est-ce une fatalité ? Je m'appelle Ariane Cronel et j'ai décidé de découvrir pourquoi on nous a comme kidnappé notre avenir, et surtout, comment penser et avancer aujourd'hui pour faire exister des futurs qui nous réjouiront demain.
Enquête d'avenir.
Moi, je suis un vrai démocrate. Georges est un fasciste de merde.
J'admire la démocratie. J'ai la passion de la République.
La France n'est point et ne peut pas être une démocratie. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Emmanuel Joseph Sieyès, député du tiers-état, figure essentielle de la Révolution française. Nous sommes le 7 septembre 1789 et celui que l'on appelle l'abbé Sieyès prononce ces mots à l'Assemblée nationale, né 3 mois plus tôt.
À Athènes, les citoyens exerçaient le pouvoir à tour de rôle, grâce à un tirage au sort. Aujourd'hui, on vote pour les personnes qui vont prendre des décisions en notre nom. C'est la démocratie représentative.
C'est une démocratie ici, oui. Un état de droit.
Le mot démocratie est un nom grec, inventé à Athènes il y a 2500 ans. Il est composé de démos, le peuple, et Kratos, le pouvoir.
Le mot démocratie a été vu de manière péjorative.
Dans l'arène politique de l'époque, que ce soit en France ou aux États-Unis, être qualifié de démocrate est clairement une insulte.
Parce qu'il était pensé comme le pouvoir au démos, c'est-à-dire à la foule, dans ce qu'elle a de plus violente, potentiellement brutale, irréfléchie.
Anakin, par allégeance, je suis lié à la République, à la démocratie.
Cette définition derrière laquelle on s'abrite, en fait, elle ne dit absolument rien.
Il ne désigne plus un système politique, mais un agrégat d'idéaux dont chacun peut se réclamer. Ce mot, devenu sacré, est intouchable.
Le mot a été reconnoté positivement au cours du 19e et du 20e siècle.
Car vivre en démocratie, c'est vivre avec des droits. Le droit de se déplacer librement, de pratiquer sa religion, d'exprimer son opinion.
Nous sommes en 1828 et Andrew Jackson est élu 7e président des États-Unis. Comment ? En étant le premier à se proclamer démocrate. Il se présente ainsi comme le candidat des petites gens face aux élites, récoltant du coup les voix des classes populaires. 15 ans plus tard, tous les autres candidats auront fait de même. Au passage, Jackson amène aussi le parti qui le soutient à changer de nom. Ainsi, le parti républicain devient Parti démocrate. Rien dans les mains, rien dans les poches, du marketing politique avant l'heure.
La République sera bientôt réorganisée et deviendra la première puissance galactique impériale pour une société fondée sur l'ordre et la sécurité.
C'est pas très démocratique tout ça.
Le changement climatique met les démocraties devant plusieurs défis. Le plus évident, qui consiste à se demander comment transformer les comportements vers plus de sobriété sans contraindre les libertés individuelles. Le plus institutionnel, qui consiste à s'interroger sur la forme que devrait prendre notre démocratie à venir. Plus participative, plus décentralisée. Le plus égalitaire, qui consiste à déterminer le niveau d'effort de chacun, du plus riche au plus pauvre, sans oublier les entreprises. Et puis, le plus éthique, qui exige que les générations futures, celles qui porteront le poids de nos décisions ou inactions d'aujourd'hui, puissent avoir dès maintenant voix au chapitre. Comment définir aujourd'hui l'intérêt général de demain ? Comment faire accepter les efforts indispensables ? Comment faire participer chacun à la construction d'un avenir collectif souhaitable dans un cadre politique et institutionnel qui semble, à chaque nouvelle élection, montrer un peu plus ses limites ? Une abstention en hausse, des discours populistes qui séduisent de plus en plus. À quelques semaines des élections européennes, il semblerait bien que la tentation des extrêmes n'ait jamais été aussi grande. Faut-il alors céder aux Cassandres qui prétendent que seule une bonne dictature verte permettrait de mettre tout le monde au pas et de réaliser les changements aussi indispensables qu'impopulaires ? Ou plutôt, renouveler le bail démocratique en faisant confiance à l'intelligence et au sens des responsabilités de chaque citoyen pour transformer notre modèle socio-économique ?
Okay.
Pour répondre à ces questions, j'ai demandé à Agathe Cagé de me consacrer un moment.
Ouais, ils sont bien.
Politologue, chercheuse, chef d'entreprise et ancienne secrétaire générale de la campagne de Benoît Hamon en 2017, elle est aussi, et pour moi surtout, une amie et ancienne collègue avec qui j'ai écumé les préfectures dans une autre vie.
Ok, bon, donc t'as vu le sujet.
Et elle a un avis bien tranché sur ce qui relie crise écologique et crise démocratique.
Moi, je ferais le parallèle entre la montée des populismes et la récurrence des crises.
Ok.
Qui ne sont pas que des crises climatiques, qui sont des crises climatiques, mais on a aussi connu depuis 2007 des crises économiques, crises sanitaires, crises géopolitiques, avec des conséquences économiques et sociales extrêmement lourdes. Donc il y a une récurrence des crises, parmi lesquelles les crises climatiques jouent un rôle vraiment important. Et cette récurrence des crises s'est traduite en termes de vision politique portée par une grande partie de la classe politique, par des formes d'injonctions récurrentes à la résilience, en demandant aux citoyens, vous devez accepter d'être résilient, mais au sens où vous devriez accepter une forme de dégradation permanente de votre situation. On va vous mettre des boucliers pour un peu vous protéger, mais c'est des boucliers qu'on va vous proposer sans que vous ayez à les discuter, ni de leur nature, ni du rythme à laquelle on va les mettre en place et on va les retirer, et sans qu'il y ait de véritable échange sur la nature des crises, leurs conséquences et les politiques qui pourraient être mises en place. Le populisme, ce qu'il dit, c'est une manière de s'adresser à la population en lui disant « vous inquiétez pas, en réalité, tout ce qu'on vous présente comme des problèmes ne sont pas des problèmes ». Si vous nous amenez au pouvoir, on va vous montrer qu'on va faire disparaître de manière totalement magique tous ces problèmes. Le discours classique par rapport à la crise climatique, c'est de dire en réalité, il n'y a pas de problème de réchauffement climatique. Donc si nous arrivons au pouvoir, nous cesserons avec le discours de « il faut répondre à la problématique du changement climatique ». Et comme par nos mots, on fera que cela n'existera plus, vous n'aurez plus à vous adapter à ces difficultés.
Partout, on vous répète sans le moindre doute que le changement climatique est le fait de l'homme. C'est un mensonge.
Si on analyse le climat à l'échelle géologique, on n'accordera jamais au CO2 une influence aussi importante.
Je pense que le concept du réchauffement climatique, c'est une sorte de religion.
Moins un degré hier à 3. Attention, sujet sensible. On ne rigole pas avec le réchauffement climatique.
À l'étranger aussi, Donald Trump s'en amusait beaucoup pendant la période glaciale à Chicago au début de l'année. Il disait ironiquement qu'une petite dose de réchauffement climatique serait la bienvenue.
Il fait moins 3 degrés dans Paris, donc moi ça m'a amusé, ouais.
Les populistes, en fait, leur force, c'est que leur vision du monde repose sur l'absence de toute complexité. Il y a en effet un bouc émissaire, mais il est unique, il est seul. Alors on le voit sur le Rassemblement national en France, clairement, le bouc émissaire, c'est l'autre, l'étranger, l'immigré, le non-intégré, et qui serait donc le problème. Et à partir du moment où on mettrait en place un certain nombre de mesures pour faire en sorte que cet autre n'existe plus, alors l'ensemble des problèmes disparaîtraient. C'est pensé au sens extrêmement large, c'est-à-dire que face à la crise agricole, si on fait disparaître l'autre qui, dans ce cas-là, est soit le producteur de poulet ukrainien, soit le producteur de tomates espagnoles, alors il n'y a plus de problème à la fois de financement de l'agriculture, de qualité de l'alimentation en France et de niveau de vie des agriculteurs. Donc les populistes sont très forts parce que en faisant disparaître la complexité, ils font disparaître les difficultés liées aux problèmes qui sont des problèmes multiples. Et il propose des solutions apparemment miracles dont on sait que la mise en œuvre n'existera pas et donc qu'elles ne permettront de résoudre absolument rien. Les électeurs ont plus conscience que la classe politique populiste, à mon sens, de la complexité. Et parce qu'ils vivent dans des environnements complexes. Mais en même temps, la difficulté, c'est que face aux populistes, il y a peu de réponses en termes de projets complexes qui sont proposés par les partis populistes. Politique qu'on appellera non populiste. Et donc, face à une offre qui est soit un discours de simplicité extrême, mais qui n'a pas encore été dans certains pays, dont la France, portée au pouvoir, donc essayée, et le reste de l'offre, qui sont des discours sans véritable vision, sans véritable projet et sans ce qui, moi, m'apparaît essentiel. Proposition d'émancipation collective faite à la société, soit l'électeur s'abstient, soit il va voter pour l'offre populiste, en tout cas de plus en plus, l'offre populiste qui lui propose d'essayer quelque chose sans complexité.
Tu l'as dit, Bouffi. Et je ne peux pas dire que les projets politiques portés depuis que je suis en âge de voter m'aient particulièrement marqué. Limité à un « travailler plus pour gagner plus », puis au « changement c'est maintenant », ces embryons de projets ont carrément disparu depuis 2017, pour se réduire à « c'est moi » ou les extrêmes. Face à une offre politique incapable d'assumer, et donc d'adresser, la complexité des enjeux du moment, faut-il vraiment s'étonner que les discours populistes rencontrent un tel écho ?
La grille de lecture que j'ai là-dessus, c'est un peu la notion d'empêchement. C'est-à-dire une conscience très forte chez les citoyens d'être empêchés dans la quasi-totalité des dimensions de leur vie, d'être empêchés par rapport à la mobilité, d'être empêchés dans la qualité de leur travail et la manière d'exercer leur travail de façon dans des bonnes conditions, d'être empêchés par rapport à la qualité des services publics qui leur sont proposés, d'être empêchés dans la construction de leur propre avenir, une impossibilité de se projeter à court terme à cause des limites très fortes du pouvoir d'achat, la part des dépenses contraintes qui est extrêmement élevée, une forme d'impuissance économique qui est intégrée par beaucoup de personnes, d'être empêchés dans la construction de l'avenir de leurs gamins, avec cette idée que quoi qu'on investisse dans le système éducatif, c'est la situation de départ qui va déterminer la situation d'arrivée. Et de ce point de vue-là, faire face à la crise climatique et aux nécessaires transitions qu'elle demande arrive comme une forme d'empêchement global supplémentaire. Et c'est là où il y a une véritable difficulté, c'est-à-dire qu'il y a une colère par rapport à cette situation de blocage qui est ressentie et face à laquelle il y a une demande de solution, et cette demande de solution, pour l'instant, n'obtient pas de réponse. Il y a une peur par rapport à cette situation, parce que si on est dans une situation où on se dit « je vais pas réussir à m'en sortir par le haut, bah, si ça bouge, j'ai peur que ma situation se dégrade », et la peur par rapport à l'avenir est extrêmement forte en France. Il y a une peur qui est très très forte par rapport à la pauvreté, par rapport à l'impuissance économique, et face à ça, il y a en plus la nécessité de prendre conscience qu'il y a des transitions à conduire. Mais si ces transitions ne viennent pas sur une dynamique positive, mais viennent sur la dynamique actuelle qui est une forme de pente négative, alors il ne va pas avoir de possibilité de construire les choses positivement en suscitant l'adhésion. Mais là où je ne suis pas pessimiste, c'est que je pense qu'on peut retrouver une voie de dynamique positive en libérant, pas individuellement, sans des premiers de cordée, mais en libérant collectivement un peu l'énergie des citoyens. Et si on remet collectivement cette dynamique positive, ce qui passe aussi par des nouvelles dynamiques démocratiques, alors ça sera plus facile de construire et de faire accepter les transitions. Parce qu'en fait, il ne s'agira plus de faire accepter les transitions. Il s'agira de construire collectivement et démocratiquement les transitions dans lesquelles on va s'inscrire.
Je suis bien d'accord. C'est beaucoup plus simple de réaliser des changements quand ils sont définis et donc voulus collectivement que quand ils sont décidés en cercle restreint et vécus comme imposés d'en haut. Mais nos institutions sont-elles adaptées pour, comme le dit Agathe, libérer cette énergie collective ?
Je pense qu'intrinsèquement, notre système institutionnel n'a pas de limite par rapport à la possibilité de construire collectivement des transitions. C'est extrêmement intéressant ce qui se passe au Chili. Depuis quelques années, où donc le pays essaie d'adopter une nouvelle constitution, donc avec des constituantes qui sont des constituantes citoyennes, avec une dimension démocratique, paritaire, inclusive dans la manière dont les équipes qui réfléchissent au texte de la constitution sont montées. Il y a eu deux textes qui ont été rejetés, un texte qui était considéré comme marqué très à gauche, un texte qui était considéré comme marqué extrêmement conservateur. Les deux textes n'ont pas rencontré l'adhésion de la population, mais déjà c'est intéressant, c'est-à-dire un processus, une proposition de constitution qui est établie démocratiquement, une proposition au vote, et le texte peut être adopté ou rejeté, donc il n'y a pas la dimension, parce qu'on a un texte qui a été préparé et qu'on a mis plusieurs mois à travailler dessus, vous êtes obligé de l'accepter. Il y a cette dimension, on a fait un travail démocratique, on vous propose un texte, et ensuite il y a le choix du vote, et si ça ne va pas, on remet le travail sur l'établi, on recommence. Et cette culture-là de la démocratie, c'est aussi une construction qui se pense et se construit sur le temps long. On l'a pas forcément en France. Et je pense que ça, on a besoin de l'adopter. Mais c'est pas une question institutionnelle. C'est une question de pratique. Ce qui est vraiment intéressant également dans le cas de la Constitution chilienne, c'est que le texte qui a été présenté en 2022, donc le premier texte à avoir été rejeté, posait des choses extrêmement fortes. du point de vue des transitions écologiques, sociales et sociétales. Le texte disait, parmi les 388 articles, mais les premiers articles du texte, disait « le Chili est un état de droit, démocratique, social et écologique ». Donc c'était posé comme cadre dès le départ. Il posait le fait que la démocratie chilienne était une démocratie qui reconnaissait l'égalité entre les citoyens et également le lien indissociable et substantiel qui lie les citoyens avec la nature. Et après, en termes de cadrage, c'était notamment développé sur l'eau, son usage, à qui l'eau appartient ou n'appartient pas, la relation avec la nature, ce qu'on peut faire ou pas de la nature, quelles exploitations on peut avoir ou pas. C'est-à-dire que il y a la possibilité, dans un texte constitutionnel, de poser des principes extrêmement forts, ce qui, demain, permettront ensuite de conduire des transitions. Et ce texte, dans ces formulations-là, n'a pas reçu d'adhésion, mais un texte avec des formulations similaires pourrait demain recevoir l'adhésion et permettre de construire quelque chose. Mais ça fonctionne uniquement si on est sur la base d'un processus démocratique vraiment ouvert, de la construction de quelque chose et d'une véritable adhésion avec la population. Le problème qu'on a en France aujourd'hui, pour moi, c'est un problème de double affaiblissement démocratique. D'un affaiblissement de la démocratie représentative, qui, à mon sens, a une cause essentielle. C'est le fait que la parole politique a totalement perdu de sa valeur. C'est-à-dire que depuis plusieurs années maintenant, les engagements politiques ne se traduisent plus concrètement dans les faits. Donc, ce qui est fondamentalement une rupture de la promesse à la base de l'acte électoral. Et cet affaiblissement de la démocratie représentative, on a voulu compenser par un développement des modes de démocratie participative ou délibérative. Ce qui, pour moi, était une erreur. C'est-à-dire que la démocratie participative et délibérative doit venir enrichir, pas compenser l'affaiblissement de la démocratie représentative. Et en plus, on fait assez mal de la démocratie délibérative et participative. C'est-à-dire que, alors qu'on développe ces moyens-là pour réparer la cassure, les fractures de la démocratie représentative, on refait exactement les mêmes erreurs et on recrée les mêmes fractures. C'est-à-dire qu'on prend des engagements très forts en termes de démocratie délibérative, en disant on monte une convention citoyenne. Les citoyens sont tirés au sort. C'est extrêmement intéressant quand on parle avec des citoyens qui ont été tirés au sort pour la Convention citoyenne pour le climat. Déjà, il y a une fierté citoyenne, il y a une volonté d'apprentissage, de pédagogie, un vrai travail délibératif qui a donné des choses vachement intéressantes.
Quand j'ai appris que j'avais été tiré au sort pour la Convention citoyenne, j'y ai pas vraiment cru.
Je me suis dit, qui m'appelle? C'est une arnaque.
En fait, non, ce n'était pas une blague, c'était quelque chose de réel, totalement nouveau et inédit dans la France. J'ai commencé à être très impressionnée.
La Convention citoyenne, c'est 150 citoyens qui ont été tirés au sort et leur job, c'est de proposer des mesures pour lutter contre le réchauffement climatique qui seraient ensuite soit transmise au Parlement, soit directement transmise à référendum.
Mais dès le départ, on a fixé des règles du jeu. On pouvait en fixer des différentes. On pouvait dire c'est une assemblée qui sera consultative, c'est une assemblée dont on ne prendra pas l'ensemble des travaux. Non, on fixe des règles du jeu en disant c'est cette assemblée en fait qui va décider du chemin qu'on va prendre par rapport au climat. Et dès que cette assemblée a rendu ses travaux, alors on change totalement les règles du jeu.
Après des mois de concertation, les 150 citoyens de la Convention pour le climat ont évalué la prise en compte de leurs propositions. Leurs notes sont catastrophiques.
La moyenne, 2,5. La médiane, 2.
2,5 sur 10 pour la diminution des gaz à effet de serre. Des notes à la hauteur de leur déception. Emmanuel Macron avait promis de reprendre la quasi-totalité des propositions sans filtre, promesse non tenue selon ce participant.
Il l'a mis de côté et du coup ça n'a pas été repris et je suis un peu déçu, on est tous un peu déçus là-dessus.
À la Convention citoyenne pour le climat, nous avons fait beaucoup de rencontres, lu beaucoup de rapports d'experts, nous avons appris beaucoup. Ces informations ont été reçues par nous tous comme un véritable choc. Elles sont connues par tous les spécialistes, par tous les politiques, par tout le gouvernement depuis des décennies, mais elles ne sont pas portées à l'esprit de plus de 66 millions de Français.
Et on recommence quand on fait la Convention citoyenne sur la fin de vie, comme si on n'a pas compris la première. La Convention citoyenne sur la fin de vie dit il faut faire évoluer très vite la loi. Il y a une demande en plus du texte en s'adressant pour public en disant il y a un besoin citoyen de faire évoluer la loi. Et là, tout d'un coup, on met le bouton sur pause et on dit tout ça dépendra de la décision d'un seul homme, s'il fait ou pas le choix au niveau de la présidence de la République de faire évoluer la loi. Le problème, c'est que les règles du jeu avaient été posées différemment. Et donc, si on construit des nouvelles dynamiques démocratiques, déjà à la place des anciennes, alors qu'il faudrait les faire en complément, et en plus en reprenant exactement le même défaut des anciennes, on va pas réussir à ramener les citoyens dans la délibération et la pratique démocratique, alors que de fait, il y a une vraie envie des citoyens d'avoir de la délibération.
D'après Agathe, les citoyens ne seraient donc pas encore si dégoûtés que ça de la politique et manifesteraient même une vraie envie de comprendre et de délibérer dès lors qu'on leur en donne la possibilité. Alors, comment expliquer l'augmentation de l'abstention lors d'élections qui, en principe, sont justement l'occasion pour les citoyens de donner leur avis ?
Dès le milieu des années 80, c'est pas propre à la France, hein, ça a été étudié dans les autres pays européens, on a des partis politiques qui travaillent plus.
C'est comment travailler ? Parce que je connais le mot, mais j'ai un copain qui fait ça, mais je ne sais pas.
On a des partis politiques qui externalisent totalement la production d'idées et qui ne se concentrent uniquement que sur le jeu politique lui-même et un peu de stratégie marketing, un peu de stratégie électorale. Ça, ça a eu des conséquences à long terme. C'est-à-dire que ça ne s'est pas vu tout de suite. On peut externaliser un peu la production d'idées à des clubs, à des think tanks dans les meilleurs des cas, à des agences de communication dans les cas les moins intéressants, et se concentrer uniquement sur du jeu électoral. Mais à long terme, ça a un peu des conséquences. Parce que quand vous faites ça, quand vous externalisez la production d'idées, ce que vous abandonnez aussi, c'est les formations, la culture militante à l'intérieur des partis, l'offre intellectuelle que vous proposez très largement autour de vous et ce qui faisait la force du réseau militant. Et vous ne demandez plus à vos militants que d'aller tracter au moment où il faut soutenir les candidats qui ont été désignés par l'appareil et qui sont finalement des professionnels de la politique. En 2017, Emmanuel Macron arrive sur un terrain de jeu où les partis politiques se sont décrédibilisés eux-mêmes parce qu'ils ont tendance à faire beaucoup appel à des... comment ça s'appelle ?
Des spin doctors.
Un peu à des spin doctors et un peu à des boîtes qui leur votent des logiciels électoraux. Des logiciels électoraux qui leur disent « Écoutez, vous n'allez pas perdre du temps à faire campagne de manière globale. On va vous dire qui sont vos électeurs acquis, qui sont les électeurs qui voteront jamais pour vous et donc quel est le ventre mou sur lequel vous allez vous concentrer et sur lequel vous allez devoir travailler. » Alors, on a pu dire que c'était ce qui avait fait gagner certains candidats. En réalité, c'était sans voir la dynamique globale. C'est pas grâce à ça que Barack Obama gagne. C'est grâce à la mobilisation militante très forte sur tout le pays, la dynamique qu'il arrive à lancer. On a un exemple de plantage de ce type d'approche très fort avec la campagne d'Hillary Clinton, qui décide de pas aller dans les États qui sont a priori acquis. En conséquence, ces États-là, ils l'ont pas vu, ils voient Trump une, deux, trois fois, ils votent pour Donald Trump. Ça a des conséquences concrètes. Après, hein, quand on fait campagne comme ça, vous perdez une élection, ça met une autre personne à la tête du pays avec un autre programme et ça a des conséquences vraiment concrètes. Quoi. On n'est pas en train de jouer à est-ce que vraiment j'ai micromanagé le mieux possible ma campagne. Et ça donne quoi comme résultat ? Ça donne les gens qui, a priori, vous sont acquis, vous ne leur parlez plus du tout. Donc, vous ne savez pas ce qu'ils pensent de vos idées. Vous ne les voyez pas évoluer. Ils n'ont plus la capacité de vous faire remonter un certain nombre de difficultés et de vous dire là-dessus vous déconnez grave, non, vous boitez même pas en fait, donc vous avez plus cette remontée là, c'est-à-dire que les personnes a priori grâce auxquelles sur le terrain vous devriez construire votre campagne, vous leur parlez plus. Les personnes qui vous sont opposées fondamentalement, vous refusez de leur parler. C'est-à-dire qu'en fait vous n'êtes pas dans la confrontation, la co-construction, vous comprenez pas pourquoi ils vous sont opposés, vous essayez pas de les ramener vers vous. C'est problématique aussi. Enfin, les grands politiques, c'était quand même ceux qui, à la base, retournaient des salles.
Bien sûr.
Et donc, on va chercher à parler uniquement, à convaincre les indécis. Mais déjà, les indécis, ils sont peu nombreux. C'est pas ceux qui sont le plus convaincus qui vont aller voter. Et puis, c'est pas ceux qui sont le plus à même de vous secouer et donc de vous faire progresser. Donc, il y a cette difficulté-là. Et l'autre difficulté des partis politiques en France, pour moi, c'est que une partie d'entre eux continue à le considérer. Quand on parle de la gauche, disons, traditionnelle et la droite traditionnelle, c'est qu'il suffisait de dire « Bouh, les populistes ne sont pas beaux, donc ne votez pas pour eux », pour faire voter pour soi-même. C'est-à-dire qu'il y a eu cette paresse de proposer un projet. pour moi, un parti politique, sa vocation, c'est de proposer un projet qui suscite l'adhésion. C'est pas de se positionner uniquement par rapport au rejet que le populisme devrait automatiquement susciter chez une partie de la population.
Pas plus que je n'ai accepté dans le passé d'alliance avec le Front National. Pas plus que je ne l'ai accepté dans le passé, je n'accepterai demain de débat avec son représentant. Je ne peux pas accepter la banalisation de l'intolérance et de la haine.
On voit bien que je suis la barrière et que le choix qui doit sortir de la primaire pour tous ces gens n'aille pas grossir les rangs du Front National, vaut mieux que ça soit moi.
Mais je ferai tout durant les 5 années qui viennent pour qu'il n'ait plus aucune raison de voter pour les extrêmes.
Madame Le Pen a fait 34% aux élections présidentielles. Là, elle est donnée à 45%. Donc en deux ans et demi de macronisme, on a 11 points de plus. Elle est donc plus qu'à 5% de la victoire. Donc encore un petit effort, M. Macron va réussir à installer Madame Le Pen. Donc là, donc je ne crois pas que ça ne s'appelle pas un rempart.
D'accord, j'ai pas dit ça.
Ça s'appelle un propulseur.
Ça ne fonctionne pas, mais il y a encore cette croyance de dire, de désigner en permanence le populisme comme le problème, au lieu de travailler à proposer un projet alternatif. Et la gauche, des partis de gauche traditionnels comme des partis de droite traditionnels peuvent revenir, pour moi, facilement au pouvoir, arithmétiquement au pouvoir. Mais s'ils proposent un véritable projet. Bien sûr que parfois, les citoyens ont des votes d'opposition, des votes de colère, ça fait partie de leur droit de vote, mais ils votent aussi pour un projet, pour un programme, pour ce qu'on leur dit, pour leur vie concrète, pour les solutions qu'on leur propose. D'ailleurs, c'est assez intéressant de voir comment le Rassemblement National a fait évoluer sa position par rapport à l'Union européenne. C'est-à-dire que c'était la position extrêmement facile à un moment donné de dire on est pour la sortie de l'euro, on est pour le Frexit, tout le monde va considérer ça absolument génial, comme ça on dira c'est l'Union européenne la mère de tous nos problèmes. Et puis tout d'un coup, ils ont compris qu'il y avait très peu de leur électorat qui allait considérer que c'était la solution. Et quand on entend les échanges aujourd'hui, entre les représentants du Rassemblement National et les agriculteurs, la première question qu'ils posent, c'est est-ce que vous allez ou pas sortir de l'Union européenne? Est-ce que vous allez ou pas détruire la PAC? Parce que nous, on sait très concrètement ce que ça va avoir comme impact. Donc, votre position simpliste, dans sa version ultra simpliste, on ne l'accepte pas, quoi.
Certes, les citoyens savent faire preuve de discernement, surtout quand on les frappe directement au portefeuille. Mais, en même temps, cela ne suffit pas à les prémunir contre le pouvoir de séduction des discours simplistes qui désignent à la vindicte populaire un ou plusieurs boucs émissaires commodes et qui promettent dès le lendemain débarrasser d'à peu près tous les problèmes. Finalement, le premier danger pour la démocratie n'est-il pas cette faiblesse des projets politiques couplée à la naïveté des électeurs ?
Le premier des dangers qui pèsent sur la démocratie, c'est l'arrivée au pouvoir de forces politiques qui remettront en cause l'état de droit. Un état de droit, c'est toujours une construction qui est extrêmement fragile. On a des institutions qui existent pour protéger l'état de droit. Mais déjà, on peut avoir des pratiques, des institutions qui fragilisent l'état de droit. Et puis, on a vu dans l'histoire et dans d'autres pays, des forces politiques remettent totalement en cause les institutions. Donc pour moi, c'est un vrai danger. C'est pour ça qu'il faut faire très attention aux pratiques institutionnelles, à respecter les institutions et également l'usage des institutions, parce qu'à trop jouer avec les usages en disant ça paraît moderne de faire preuve de rupture ou un usage n'est qu'un usage, on fragilise un certain nombre de choses. Je pense par exemple aux pratiques de nomination, je pense par exemple à attendre l'usage du 49-3. Je pense aussi au fait que la France a dû se protéger contre le terrorisme et la menace terroriste. Et pour se protéger, on avait besoin de faire évoluer un certain nombre de lois par rapport à la surveillance, par rapport à la protection des citoyens, par rapport au contrôle des personnes qui peuvent être dangereuses pour le pays. Ces lois-là, si elles sont tordues, si elles sont mal utilisées, ça peut remettre en cause très facilement l'état de droit. Donc l'état de droit, c'est une conquête extrêmement fragile. De la même manière que l'état social est une conquête fragile et que des choix politiques peuvent conduire à la remise en cause demain de l'État social, de l'État-providence, jusqu'au droit du travail. C'est-à-dire que rien n'est acquis dans les conquêtes juridiques, sociales, démocratiques de la France. Tout est fragile. D'où la responsabilité des partis non populistes à proposer un projet qui suscite une adhésion telle qu'on va pouvoir demain rebâtir quelque chose dans la complexité et qui échappe au risque populiste.
Je ne suis pas sûre que tout le monde mesure, comme le fait Agathe, le risque réel qui pèse sur notre état de droit en cas d'arrivée d'un parti extrémiste au pouvoir. On se dit toujours que les durcissements concerneront les autres, ceux qui ont quelque chose à se reprocher quelque part. On a du mal à concevoir, après presque 150 ans de République quasi ininterrompue, le retour de l'autorité, de l'aléatoire, des lois iniques qui légitimeraient la violence étatique contre une partie de la population au gré des obsessions des dirigeants. Et pourtant, il ne faut pas regarder bien loin. Il suffit d'arrêter l'œil à Vichy pour avoir une illustration éclatante de ce que signifie remettre en cause l'état de droit. Alors une fois qu'on a dit ça, comment fait-on pour relancer la dynamique démocratique? Comment réussit-on à proposer un projet collectif sur des sujets de transition éminemment complexes et qui ne feront jamais consensus?
Je pense qu'on peut rendre possible la décision collective d'abord en construisant cette décision par rapport à la diversité des situations. C'est-à-dire qu'on n'aura pas de modèle unique de transition pour tout le monde. Ce qu'on peut avoir en commun et la décision collective peut porter sur le niveau d'effort qu'on demande à l'ensemble des personnes, mais ce niveau d'effort va ensuite se traduire par des réalités vraiment différentes. Si je prends le sujet de la mobilité, en France, la distance vitale, ce qu'on appelle la distance vitale, c'est la distance que tout à chacun a à parcourir s'il veut accéder aux soins, aller travailler, accéder à l'administration, aux services publics, etc. Faire ses courses. La distance vitale, entre 1970 et 2004, elle a été multipliée par deux dans notre pays. On est passé de 20 km à 40 km. Donc on est en moyenne à 40 km. Ça veut dire que certains ont 60, 70, 80 km de distance vitale à parcourir, et puis il y a d'autres personnes qui ont 5 km de distance vitale.
Ou 500 mètres quand tu es à Paris.
Ou 500 mètres. Ou la ville du quart d'heure, etc., à pied, en vélo. On ne peut pas demander, en termes de mobilité, d'avoir les mêmes pratiques aux personnes qui ont 70 km de distance vitale à parcourir et aux personnes qui ont 500 mètres de distance vitale à parcourir. Or, on a tendance à proposer des politiques qui sont exactement les mêmes. Il peut y avoir une délibération collective sur le niveau d'effort. Il peut y avoir une délibération collective sur aussi ce qu'on permet à l'ensemble des personnes en termes d'ouverture au monde et de découverte d'autres réalités. Sur la problématique du voyage, c'est quelque chose qui est très fort. C'est-à-dire que c'est essentiel pour toutes les générations et pour tout le monde, de mon point de vue, d'avoir une possibilité d'accéder à la découverte du monde.
Ce que pointe finalement Agathe ici, c'est à la fois la difficulté à choisir collectivement quelles sont les possibilités d'aujourd'hui qui doivent disparaître demain, pour permettre à d'autres, comme l'accès à la mobilité, de perdurer. Et c'est aussi l'injustice qui pèse sur les générations à venir, qui vont à la fois subir des restrictions plus importantes et payer un prix exponentiel pour toutes les décisions que nous refusons de prendre aujourd'hui par peur des conséquences sociales et politiques. Finalement, on voit bien pourquoi il est vital de réveiller la démocratie et de remobiliser les citoyens autour d'un projet de transition qui ne sera sans doute jamais parfait, mais certainement meilleur que des crises subies à répétition, sans cap, vision ni pilotage.
Pour moi, poser un certain nombre de sujets, c'est pas du tout impossible. La Convention citoyenne sur le climat, elle a montré qu'avec un processus délibératif, on pouvait arriver à des décisions fortes qui n'étaient pas des décisions qui allaient totalement apparaître comme des contraintes vitales imposées de l'extérieur à l'ensemble des citoyens. Sauf qu'il faut construire, à mon sens, des choses sur du temps un tout petit peu long. Ça ne va pas être 5 mois de discussion, ni 1 an, peut-être 2 ans, peut-être 3 ans de discussion. Il faut accepter de prendre ce temps-là, il faut accepter de prendre en compte la réalité des vécus, pas les vécus fantasmés, pensés depuis les institutions. Il faut accepter de prendre en compte le fait que les citoyens sont intelligents. Donc ils comprennent. Ils vont aussi se mettre dans la co-construction de choses parce qu'ils comprennent la nécessité d'un certain nombre de choses. Puis les transitions, pour moi, ça s'impose pas. Ça se conduit collectivement. Ce qui est frappant dans le soutien de l'immense majorité des Français au mouvement des agriculteurs, c'est le fait qu'il y ait une adhésion très forte des Français à la réalité des agriculteurs qui disent on ne peut plus correctement produire. Et si on ne peut plus correctement produire, ça veut dire deux choses. D'abord, on ne peut pas gagner dignement notre vie par notre travail. Et ça veut dire que demain, on ne va pas être en mesure de garantir une alimentation de qualité proposée aux Français. Et ça revient pour moi au fait que les Français disent on se sent empêché dans beaucoup de dimensions de notre vie. Les agriculteurs nous disent on est empêché pour pouvoir travailler de la manière dont on voudrait travailler et produire en gagnant dignement notre vie. Donc les Français comprennent ce discours des agriculteurs qui, d'une certaine manière, traduit sur une autre réalité leur propre vécu et le soutien. Et la réponse qui a été apportée de manière médiatique par le gouvernement, c'est de dire hop, je descends au milieu d'une réunion d'agriculteurs, je mets une botte de foin et je dis je mets sur pause les normes éco-phyto et ça va passer. De fait, en réalité, le mouvement il n'est pas redescendu de fait de ça, parce que ça répondait que marginalement à certaines demandes d'une partie des représentants syndicaux des agriculteurs. Et trois semaines après, les agriculteurs ont dit toc toc toc, en fait on comprend pas, vous nous avez fait des annonces au milieu de la botte de foin, il y a peu de réunions de travail depuis. On n'a pas avancé, il y a le salon de l'agriculture qui arrive, on ne sait pas comment on va faire, donc entre la botte de foin et le salon de l'agriculture, il ne s'est rien passé, vous avez dit que vous allez changer nos conditions de travail, on n'a rien vu. Donc ce que demandent les agriculteurs, c'est concrètement comment vous allez nous aider à améliorer nos conditions de travail. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on pouvait aussi mettre en place, mais de manière immédiate, 3 semaines, 6 semaines, 2 mois, 6 mois de travail concret avec les agriculteurs, point par point, pour voir ce qui leur permettrait à très court terme, à moyen terme, à plus long terme, de mieux travailler. Peut-être à très court terme, une mise sur pause des normes, mais en disant très rapidement la protection contre les pesticides pour l'intérêt général et même pour votre santé à vous, c'est une priorité. Donc on va faire en sorte d'avancer sur tous les points qui nous permettent demain de reculer aussi sur les pesticides et vous de mieux vendre et de mieux travailler. Et ça se met en place par des processus de dialogue social, déjà, c'est important, dialogue social, puis dialogue citoyen, puis dialogue territorial, qui demande véritablement, non pas des réponses médiatiques et un problème, mais un travail gouvernemental et un travail de terrain extrêmement fort. Et ce qui est vraiment, pour moi, ce qui montre qu'on n'est pas dans cette forme de définition d'intérêt général, c'est que le président de la République, à l'issue du salon de l'agriculture, vient de dire... faites-nous remonter vos problèmes de nouveau, comme si on ne les avait pas entendus, mais faites-nous de nouveau remonter les problèmes, mais ne nous faites pas remonter 150 choses, faites-nous remonter 400 points. Sauf que la difficulté des agriculteurs, ce n'est pas 400 points. Comment on peut croire qu'on va résoudre ce problème-là et définir un intérêt général qui nous permette d'avoir des bons revenus pour le monde agricole, une alimentation saine, des prix qui rémunèrent correctement le travail, un pouvoir d'achat des Français qui est préservé? En disant fait-on remonter 4-5 problèmes et pas 150. Parce qu'en fait, s'il y a besoin de travailler sur 150 mesures et pas uniquement sur soyez contents, vous allez pouvoir continuer à utiliser tel ou tel pesticide, on ne résoudra pas les choses de la même manière. La problématique là de la définition d'intérêt général, c'est que les choses sont pensées à l'aune du buzz médiatique et pas la construction de réponses. Et ce qui est véritablement intéressant de mon point de vue par rapport au positionnement des agriculteurs, c'est qu'ils demandent des réunions de travail et d'avancer concrètement et de pouvoir travailler mesure par mesure, filière par filière, taille d'exploitation par taille d'exploitation. Et en travaillant comme ça, alors on va pouvoir faire advenir un intérêt général.
À qui s'adresser pour faire remonter ses préoccupations dans notre démocratie? Illustrant une conception très verticale du pouvoir, les années récentes ont vu l'affaiblissement des corps intermédiaires et l'établissement d'un dialogue de sourds entre le peuple, infantilisé et méprisé, et le président omnipotent et omniscient. Le renouvellement démocratique passera peut-être par l'abandon de cette conception à une tête, largement héritée du fantasme napoléonien. Réorganiser des corporations en s'inspirant de celles du Moyen-Âge, nourrir les représentations collectives à différentes échelles, communautés, syndicats, associations, et mettre en face des représentants politiques ayant un réel pouvoir d'engagement et de décision, sans que tout doive systématiquement remonter à l'Élysée. Voilà qui serait probablement de nature à redonner un sens à la notion d'intérêt général, aujourd'hui plutôt perçu comme l'intérêt bien compris de quelques-uns, et qui permettrait, plus légitimement, de demander des efforts à l'ensemble de la population.
Je suis convaincue que les citoyens se sentent concernés par les élections. Là où ils ne se sentent plus concernés, c'est sur l'idée qu'aujourd'hui, leur choix et leur vote va se traduire concrètement. Ce qui est un véritable problème. Et pourquoi ils considèrent ça ? Parce qu'il y a une déconnexion forte entre les engagements pris et la politique telle qu'elle est ensuite conduite. Mais ça se voit au niveau national, mais ça peut aussi se voir au niveau local. Pour moi, c'est un problème de définition de ce qu'est la responsabilité politique aujourd'hui. Pour moi, la responsabilité politique, elle se définit très simplement. C'est prendre des engagements et les tenir. Enfin, c'est ce que je reprends là, c'est ce que disait Hannah Arendt quand elle définissait ce qui était au cœur du travail politique. Elle dit au cœur du travail politique, il y a la capacité à faire des promesses. Bon, le personnel politique français s'arrête là. Hannah Arendt écrit quand même, il y a la suite, il faut lire Hannah Arendt quand elle fait des phrases en entier, et la capacité à les tenir, la capacité à tenir les promesses. Elle n'est plus du tout intégrée par le personnel politique aujourd'hui. Alors, moi, je trouve, pour répondre au début de ta question, ouais. Je trouve qu'on a des appels aux urnes pour les municipales, les régionales, les départementales, les élections nationales, les élections européennes, parfois, pas assez souvent, lors de référendums, qui sont des appels aux urnes qui correspondent vraiment à des réalités et qui sont assez bien rythmées. Donc pour moi, il n'y a pas trop d'élections qui sont proposées aux citoyens, ni des niveaux qu'il faudrait supprimer dans le jeu démocratique, y compris parce qu'il y a des responsabilités démocratiques qui sont exercées à différents niveaux. Un des sujets qu'on a presque technocratique, c'est le problème de la répartition des compétences. Ça, c'est un vrai sujet. C'est-à-dire que c'est pas que les citoyens ne comprennent pas qui exerce tel ou tel niveau de compétence, c'est que les différents niveaux, entre eux-mêmes, ne comprennent plus où est la responsabilité des uns et des autres, ce qu'ils vont faire, ce qu'ils vont pas faire, et avec une facilité très rapide de « je critique ce qui est de la responsabilité de mes camarades et je n'assume pas ce qui est de ma responsabilité ». Ça, c'est très flagrant, par exemple, en Ile-de-France, sur la question des transports. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir à chaque niveau des responsables politiques qui s'engagent au maximum pour progresser sur leur champ de responsabilité, ils sont dans un temps de contestation et de renvoi aux responsabilités des autres. Donc ça, pour moi, c'est problématique. Mais on peut avoir une démocratie avec des taux de participation qui redeviennent très forts, avec une vraie vitalité démocratique, en gardant ce rythme électoral.
Ok. Si j'en crois Agathe, nous avons donc moins un problème d'institution et d'organisation de la vie démocratique qu'un problème d'usage de ces institutions et de qualité du personnel politique qui ne s'investit pas pleinement pour réaliser ses promesses de campagne.
Après, il faut retrouver la cohérence entre le choix qui s'exprime dans les urnes et la manière dont on gouverne. Sur le second tour des élections législatives de 2022, il y a un choix citoyen explicite qui est de dire « on ne donne de majorité absolue à personne ». Et la majorité présidentielle est une majorité relative. Ce qui était le choix électoral, citoyen, démocratique, de dire « il faut que dans ce mandat-là, 2022-2027 », vous gouverniez autrement. Ouais. Ce qui n'était pas le choix de dire « vous allez vous démerder avec des 49-3 ».
Certes. Sauf que l'option retenue depuis les législatives, c'est plutôt d'utiliser le 49-3 pour contourner l'absence de majorité parlementaire et de diaboliser les oppositions. Pas sûr que le climat politique soit donc idéal pour engager les changements difficiles et potentiellement impopulaires susceptibles d'atténuer les effets du changement climatique. Sans même parler du coût de la transition. Bon alors Agathe, comment on fait pour sortir de cette impasse ?
Pour moi, il y a deux choses. Déjà, face aux crises, les conséquences des crises économiques, sociales, des crises sanitaires, des crises climatiques, il faut que l'ensemble des acteurs prennent leurs responsabilités, c'est-à-dire les acteurs politiques, au niveau national, au niveau local, les citoyens vont le faire, ils le font déjà, et également le monde économique. Et à un moment donné, il y a aussi des attentes à formuler vis-à-vis du monde économique. Le monde assurantiel ne peut pas décider seul de se retirer de sa mission assurantielle sur certaines parties du territoire, tout en continuant à tirer des bénéfices et des résultats positifs de ce qu'il assurera sur d'autres parties du territoire. Il y a une forme de contribution de l'ensemble des acteurs à mettre autour de la table sur comment on construit les choses et comment on construit les solutions. Il y a sans doute des nouvelles formes de gouvernance sur certains sujets à penser, avec des gouvernances qui associent à la fois la population, le politique et le monde économique. C'est important aussi que chaque acteur prenne ses responsabilités, avec un rôle de la puissance publique qui a un rôle d'anticipateur très fort. Et la puissance publique anticipe passé et d'accompagnement par rapport à l'anticipation. C'est-à-dire que la puissance publique ne doit pas être que dans la réparation. Ouais. Faut qu'elle soit dans la réparation, mais aussi dans l'anticipation et l'accompagnement. C'est-à-dire qu'on a les moyens au niveau de la puissance publique, et notamment de la puissance publique étatique, de mettre des forces, pas seulement déjà dans le contrôle, et pas seulement dans l'accompagnement et dans la réparation, mais véritablement de mettre des forces dans l'anticipation, la prévision, l'invention de nouveaux modèles. Il y a une dimension prospective très forte du travail de la puissance publique à faire et qu'on fait pas assez. Et sur la dimension réparation-accompagnement, il y a un rôle de la puissance publique de réunir l'ensemble des acteurs autour de la table et de dire « s'il vous plaît, cette situation dramatique nous concerne tous, donc on va tous faire le job. Parce que si on ne fait pas tous le job aujourd'hui, de toute façon, le problème, vous allez vous le reprendre dans la figure demain. Donc même si vous pensez uniquement à votre intérêt personnel, l'intérêt général est la garantie demain de la qualité de votre intérêt personnel. » Donc il y a cette dimension-là qui est forte. Ensuite, pour moi, je pense qu'on peut faire confiance aux citoyens. C'est-à-dire que s'il y a un vrai travail qui est fait sur l'ensemble du spectre politique par les forces politiques non populistes au centre, à gauche, à droite, de construire avec les citoyens et proposer un projet de société qui va dans une direction qui correspond aux réalités qu'on ne peut pas nier, que les populistes nient, mais qu'on ne peut pas nier, alors il peut y avoir une capacité d'adhésion des citoyens à ces projets-là. Le job qui n'est pas fait aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de projet de société. Et ça s'est vu sur l'élection présidentielle de 2022. La majorité présidentielle a fait le choix de ne pas proposer de projet du tout, de ne pas le défendre. On ne peut pas dire qu'il y avait un vrai projet de société, une vraie vision, une vraie capacité d'adhésion au niveau de la gauche socialiste, ni au niveau de la gauche écologiste. Et il n'y avait pas de projet solide, assez concret. Pourtant, la droite républicaine le faisait très bien il y a encore une quinzaine d'années, proposer aux citoyens. Et ce dont les citoyens ont besoin, c'est des confrontations de projets. Les seuls qui paraissent aujourd'hui avoir une vision, c'est les populistes et l'extrême droite.
Oui, enfin ça, c'est de la poudre aux yeux. Car le projet populiste repose sur une logique simpliste, complètement inopérante sur la réalité du monde actuel. À l'extrême droite, il glorifie une France d'avant uniforme et fantasmée, sans aucune prise en compte de la France telle qu'elle est, composite, archipélisée, en mouvement. Il n'y a donc pas non plus de projection dans l'avenir, alors même que les déstabilisations liées au climat vont percuter celles induites par l'accélération technologique, bouleversant en profondeur l'économie et la société. S'il faut retenir quelque chose de cette France d'avant si séduisante, c'est sans doute la promesse que demain serait meilleur qu'aujourd'hui, que l'ascension sociale est possible et que nos enfants vivront mieux que nous. C'est cette promesse-là qui doit être réinventée au XXIe siècle, en évacuant le paradigme de surconsommation du siècle précédent. Mieux vivre demain, c'est quoi ? Une voiture plus grosse qui va plus vite ? Des vacances à Dubaï ? Ou un environnement plus sain dans un monde apaisé ?
Ce qui était assez intéressant, et ça redeviendra intéressant avec le clivage droite-gauche, c'est qu'il y avait une vision de société qui mettait l'accent sur telle dimension par rapport à une autre vision de société qui mettait l'accent sur telle dimension. Deux projets où les citoyens savaient où ça allait aller, les conséquences que ça aurait. Ils faisaient un choix, et ensuite, sur la base de ce choix, ils se disaient le pays va être gouverné à droite ou le pays va être gouverné à gauche. Mais on est très clair sur la manière dont ça va aller. La problématique qu'on a eue par rapport à ce clivage-là traditionnel gauche-droite, c'est qu'on a eu l'élection de personnes de gauche qui sont mis à gouverner à droite. Et une droite qui s'est mise à penser que si elle récupérait le mirage populiste, elle n'avait plus besoin de bosser. Mais si on revient avec des projets de société très clairs, avec quelques marqueurs très très nets, on peut ressusciter une capacité d'adhésion. Je pense que les impératifs écologiques vont être intégrés à des niveaux très divers, parce que la question écologique, elle recouvre des réalités qui sont vraiment très différentes. Ça va de la qualité de l'alimentation à la préservation de la santé humaine, la préservation de la biodiversité, à ce qu'on fait demain de notre eau, ce qu'on fait demain de l'ensemble de l'écosystème. Et on est sur des sujets qui, pour moi, sont qui couvrent tellement large et qui, d'une certaine manière, oblige à réfléchir sur tellement de sous-sujets qu'on ne peut pas dire que certains partis les intégreront et d'autres les intégreront pas. D'ailleurs, le populisme et le Rassemblement national se dit d'une certaine manière écologique. Il se dit écologique dans sa capacité à défendre un monde où les échanges internationaux auraient disparu, ce qui ferait disparaître leur empreinte carbone, où la production ne serait plus qu'ultra-locale, où il y aurait, comme par miracle, la garantie d'une alimentation saine, mais où, en même temps, on agirait ni sur les techniques industrielles, ni sur la mobilité, etc. Donc presque le, comment dire, le chapeau écologie hein,
tout le monde va le mettre.
Est presque dangereux, parce qu'au sens où tout le monde peut se l'approprier et se dire... Moi, je suis écologique, donc suivez ma politique, elle est la bonne, elle prendra en compte cette problématique-là. Par contre, ce que doivent, à mon sens, intégrer les partis politiques non populistes, c'est la vérité du discours scientifique. Et assumer la vérité du discours scientifique. Parce qu'il y a des faits, et il faut, à un moment donné, assumer la fierté de prendre en compte la réalité des faits et la complexité de ce que ça entraîne dans le projet qu'on propose. Et ça sera peut-être une ligne de fracture demain.
À la Convention citoyenne pour le climat, nous avons fait beaucoup de rencontres, lu beaucoup de rapports d'experts, nous avons appris beaucoup. Ces informations ont été reçues par nous tous comme un véritable choc. Elles sont connues par tous les spécialistes, par tous les politiques, par tout le gouvernement depuis des décennies, mais ne sont pas portées à l'esprit de plus de 66 millions de Français.
Les esprits chagrins rétorqueront sans doute qu'il n'y a pas une vérité scientifique, que les chercheurs ne sont pas toujours d'accord entre eux. Mais concernant l'impact des activités humaines sur notre environnement, le consensus est quand même large, autant que celui sur les différentes trajectoires qui nous mènent inéluctablement vers un avenir chaotique. Alors, réintégrer les faits scientifiques dans les projets politiques, assumer la complexité des faits systémiques qui ne peuvent pas être traités par des réponses uniques et simplistes, redonner aux citoyens la capacité à comprendre, à s'informer correctement et à décider collectivement, c'est effectivement essentiel. Si nos institutions actuelles peuvent accueillir ce renouveau, je me demande quand même si elles sont robustes face aux déstabilisations du XXIe siècle, les fake news en masse, les ingérences étrangères, la dilution du sentiment d'appartenance collective. Je me demande aussi si nous sommes prêts à faire face aux tensions géopolitiques provoquées par les défis climatiques. L'accueil de déplacés, les luttes territoriales pour l'accès aux ressources, serons-nous capables, ensemble, d'assumer la réalité des défis et de prendre les décisions qui s'imposent ? On poursuivra ces questions au prochain épisode.
Enquête d'avenir.
L'enquête continue. Vous pouvez retrouver tous les épisodes, leurs sources, les bios des témoins et bien d'autres choses encore sur le site internet www.enquêtedavenir.com.